Direct en jeu, la radio insolite, je suis avec la mémoire de mon ami Bossa. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut que j'appelle. Bonjour, à qui ai-je le plaisir?
Alors, moi je suis Philippe Migliotto. Voilà, je suis un passionné d'histoire. Je me considère plutôt comme un historien amateur. Voilà, je me considère comme ça, un passionné d'histoire, tout simplement.
Avant de parler de l'histoire de Bormes, qui s'est passé là? Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit? Dans le ventre de maman, vous aviez déjà de l'encyclopédie, vous regardiez toute l'histoire?
Alors, pas du tout. Alors, pour moi, l'histoire, c'était assez... C'était une suite de dates assez rébarbatives en cours, en classe, etc. Moi, je ne voyais pas ça, l'histoire, comme ça. Moi, je voyais plutôt l'histoire de petites gens, pas des grands hommes. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Les remettre un petit peu au goût du jour, tout simplement. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse dans l'histoire. Donc, je suis en plein dedans. Si je suis tombé dedans étant petit, on pourrait dire ça, parce que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire, on va dire, de la Deuxième Guerre mondiale, parce que dans mon jardin, il y avait deux casques allemands, dont un était percé, et qui nous servait de jardinière, tout simplement. Et donc, j'ai été intéressé tout de suite par ce genre de reliques anciennes. Et puis, voilà, petit à petit, je me suis intéressé à l'histoire, tout simplement. Donc ça remonte aux années 70.
Vous avez toujours été ici, dans le sud ?
Non, j'ai beaucoup bougé. J'ai tenu des gros magasins à Courchevel. Je suis parti aux États-Unis. J'ai vendu des bateaux à Saint-Tropez. Voilà, j'ai été un petit peu marin. J'ai fait beaucoup de choses. Et puis, je pense que la pomme ne tombe jamais bien loin de son arbre. Donc voilà, je suis retombé auprès de mes racines, tout simplement, avec grand plaisir.
Bon, Bormes, les Mimosas, c'est où déjà ?
Alors, Bormes. Bormes, c'est un petit village médiéval qui est là depuis très longtemps. Il se trouve à l'extrême sud de la Provence. Un endroit que je qualifierais un petit peu de paradisiaque, on va dire. Il n'y a pas qu'une seule Bormes, il y a plusieurs Bormes. Il y a le Bormes que tout le monde connaît, qui est celui de l'été, des vacances. Mais il y a un Bormes d'hiver qui est totalement différent. Voilà, Bormes suit un petit peu les saisons. Il y a beaucoup de Bormes, on va dire, dans le Bormes qu'on connaît.
C'est original, en effet, parce que moi, je connaissais Bormes les Mimosas durant l'été. Et puis, je ne savais pas qu'il y avait un village médiéval. Ça me fait penser un peu à Opio, qui est connu dans le monde entier par le club méditerranéen. Mais en fait, quand on va dans le village d'Opio, c'est un truc assez fou. Les Bormésies, ils viennent d'où, en fait? C'est le premier peuple qui s'est installé ici.
Les Borméens seraient issus d'une tribu à l'origine ligure qui s'appelait les Bormani.
Les Bormani.
Alors, les Bormani, eux, ils ont comme dieu un dieu qui s'appelle Borvo ou Bormo, qui est le dieu des eaux jaillissantes. Donc ici à Bormes, point d'eau jaillissante, bien sûr, elles sont plutôt des sources souterraines assez pauvres. Donc ils auraient emmené un petit peu leur culte, ils auraient occupé cet espace qui était libre, et puis ils sont devenus assez prospères assez rapidement, et qui dit prospérité dit convoitise. Donc ils ont été pillés, envahis, menés en esclavage même, puisque les Provençaux étaient soumis à l'esclavage pendant des siècles. Ce qui explique tout simplement la position en hauteur, la construction du village en hauteur, c'était pour se prémunir, pour voir arriver le danger qui venait essentiellement de la mer à cette époque-là, hein, pendant des siècles. Voilà. Donc Bormes est en hauteur parce qu'on se prémunit des dangers, soit des voisins, soit de la piraterie qui vient du large, d'Afrique du Nord ou d'Orient, par exemple.
Quand vous partez en balade, vous avez un parcours traditionnel, il y a des choses à ne pas rater?
Alors, j'allais dire, il y a tous les parcours possibles. Il y a la mer, il y a les collines, il Il y a le village, il y a tellement d'endroits où on peut retrouver un petit peu l'histoire, on peut se reposer partout, tout est quiétude, tout est paysage, tout est. Je pense que tout est beau à voir, voilà, tout est à découvrir, et dans toutes les saisons en fait, hein, voilà, que ce soit l'été, que ce soit en plein hiver, on a toujours quelque chose à voir, une belle randonnée, voilà. C'est Bormes.
Il y a Bormes en dehors de la saison estivale et puis il y a Bormes durant l'été. C'est marrant parce que quand les gens viennent à Bormes durant l'été, ils vont en bord de mer, ils vont sur la plage. Est-ce qu'ils sont à ce point aussi curieux? Est-ce que vraiment vous trouvez des gens qui ont envie de savoir un peu les coulisses, comme je les appelle?
Alors, on le voit de plus en plus, les gens sont intéressés par beaucoup plus d'authenticité. Donc, ils sont très demandeurs d'histoire ou de savoir-faire. Voilà. Donc, c'est une demande, je pense, de plus en croissance régulière. On le voit systématiquement. Voilà. Donc, on ne vient plus simplement occuper. Aller sur la plage avec son maillot et sa serviette de bain. On vient aussi faire des petites promenades, des randonnées dans les collines. On s'intéresse, on participe à des stages de cuisine ou autre. On fait des visites guidées historiques. On va visiter le fort du point de vue historique, pas seulement pour les présidents. Enfin, on est en train de peut-être un petit peu de rediriger les demandes.
Je fais un peu d'humour, donc c'est le fort de Bormes-les-Mimosas, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, c'est ça?
Alors, de quel fort parlez-vous? Alors, ici nous avons le fort en plein milieu du village, qui est le château des seigneurs de Fosses. Et il y a un deuxième fort occupé par un autre seigneur, élu cette fois-ci par la population. Voilà, alors c'est vrai que on s'intéresse toujours à la présence des présidents, mais le fort de Brégançon, puisque c'est celui auquel on parle, eh bien, mais il a 2500 ans d'histoire. Donc il faut peut-être s'intéresser à son histoire, aux femmes et aux hommes qui ont vécu, qui sont même morts. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant de parler du fort de Brégançon comme ça, bien sûr. Parce que la présence des présidents, bah, c'est 1968, août 68, avec le président, le couple Pompidou. Mais c'est assez récent, en fait, hein. Donc le fort est là depuis très longtemps.
Le fort de Brégançon, donc évidemment occupé par, c'est la résidence d'été des présidents de la République. Mais c'était quoi avant? C'était une place forte pour contrôler ce qui se passait dans la rade?
Exactement, ça s'appelle, je crois, en langage technique, un oppidum maritima, c'est-à-dire une vigie maritime. Quand on est en hauteur, hein, c'est le cas de Brégançon, hein, qui se trouve à 35 mètres de hauteur, on peut voir les entrées et sorties de la rade d'Œillères, et on peut justement contrôler une région, hein, puisque c'était un vaste comptoir commercial. Donc on doit protéger et appréhender une menace. Voilà, ça a été le cas pour Bonançon.
Alors, ce qui est original, c'est dans la rade, il y a un point commun avec Trafalgar.
Alors, un point commun.
On se demande comment ça se fait qu'il soit descendu si bas.
Si on doit parler des Anglais qui ont occupé la zone pendant très longtemps, ils ont été aux alentours des îles d'Hyères, ils les ont occupées, ils ont fait un petit peu ce qu'ils ont voulu. Par exemple, ils ont participé au blocus du port de Toulon. Et il y a eu beaucoup d'escarmouches, on va dire, de batailles dans le secteur entre les troupes anglaises et les marins français, ou même les marins commerciaux français. Il y a eu beaucoup d'accroches dans le secteur. Voilà. Il y a eu beaucoup de problèmes avec les Anglais. Et puis, eh ben, il y a eu Trafalgar après, hein. Donc, c'était la flotte de Nelson qui était dans le parage. Oui. Voilà. Donc, voilà notre relation avec Nelson.
Il y a des personnages, comment dire, qui ont été à Bormes-les-Mimosas.
Personnages.
Des personnes illustres ou des gens qu'on voit moins, mais qui ont vraiment marqué le village.
on voit qu'il y a eu, il y en a quantité, hein, en fait, hein, tout est relation avec l'histoire de France. Un exemple tout bête, on est en train de travailler sur le futur projet du musée de Bormes-les-Mimosas avec une société parisienne qui s'appelle Histoverie. La question m'a été posée hier, êtes-vous sûr que Saint-François de Paul, qui a été canonisé et qui a fait partie de la cour du roi, est-il réellement passé à Bormes en 1481 ? Alors, question que j'adore résoudre, si je peux. Pour nous, pour les Borméens, depuis 1791, sur la statue en plein cœur du village, il est marqué mars 1481. Donc, est-ce que c'est la bonne date ? Et donc, pour moi, il a fallu que je rentre dans les lettres envoyées par le roi Louis XI, puisqu'il est venu à son chevet, il était en train de mourir, et il l'a fait venir d'Italie pour éventuellement le sauver. Et donc, en regardant toutes les lettres écrites par le roi Louis XI, effectivement, je me suis aperçu qu'on s'était trompé de 2 ans. Il est arrivé ici en fin mars 1483. Donc 2 ans plus tard, que tout le monde pensait que c'était 1481. Voilà. Et non, c'est 1483. C'est tout frais, hein, je l'ai appris ce matin.
Voilà. Où est-ce que vous trouvez des informations comme ça ? C'est les archives nationales ? C'est quoi ?
Ce sont des archives nationales, bien sûr. Hein. Il y a des traces un petit peu de partout. Il faut savoir où chercher, il faut savoir les rassembler. C'est un petit peu comme une enquête, hein, tout simplement. Voilà, on va chercher des idées. Quelquefois on trouve, quelquefois non. Voilà. Et après, on doit décider comme en bon père de famille. Voilà, la solution la plus juste. Voilà. Dans le cas présent, c'est une lettre du roi. Donc, je suis sûr de la date. Voilà. Donc, il va falloir changer l'inscription sur la statue qui date de plus de 220 ans. Elle est fausse.
Allez, la dernière question. Il y a quelques minutes, j'étais avec Laurie, la directrice du musée, qui est fermée, qui va... Alors, je ne vais même pas dire qu'il va rouvrir, parce que c'est un nouveau musée. Et comme j'ai dit, ça va passer de 2 étages à 5 étages. Vous dormez pas beaucoup là, hein ? Il vous reste plus beaucoup de temps pour préparer l'ouverture du musée. Hein ?
C'est bien engagé. Alors, il y a beaucoup de professionnels qui savent ce qu'ils font. Les dossiers sont bien complets, bien étayés. On y arrivera. Et puis ça se fait dans une ambiance, une très très bonne ambiance. Non, ça se fait bien. Il y a beaucoup de motivation. On sait ce qu'on peut donner. Voilà, il y a tellement de choses à dire. Moi, je ne me fais pas de soucis. On y arrivera.
Sûrement, mais ce que je veux dire, c'est pas une réouverture, c'est carrément une création, puisqu'on passe de 2 étages à 5 étages. Là, 2400 ans en 2 étages, c'était un peu compliqué. 2400 ans à résumer en 5 étages, ça va être beaucoup plus simple.
Ça va être beaucoup plus simple, c'est sûr.
Ou pas, pardon, parce que c'est vrai. Pardon, j'ai dit beaucoup plus simple, tout compte, je reviens.
On va avoir un petit peu plus de place pour parler de la grande histoire que peut nous offrir la région. Hein. Il y a tellement de choses à dire. Et puis, on va, pour certains sujets, on ne va pas effleurer les sujets comme on a eu l'occasion de le faire. On va rentrer dans les détails. On est allé... C'est de la vulgarisation, en fait. On a été obligé de rentrer dans les détails assez longuement, assez avec des preuves, comme celle que je viens d'avoir, par exemple, ce matin même, pour pouvoir en tirer un résumé qui ludique, qui peut parler à tout le monde, que ce soit aux plus jeunes ou aux plus anciens, mais aussi aux spécialistes. Il y a des grands spécialistes en France, dans tous les domaines. Donc, on est assez précis sur tous les pans de l'histoire qu'on va proposer. En fait.
Allez, je vous donne la maxime que m'avait donnée il y a 2 ans le préfet du Haut-Rhin. parce qu'on a une chronique, c'est une chronique historique, et il m'avait dit pas d'histoire sans mémoire, pas de mémoire sans histoire.
La mémoire et l'histoire, oui, en fait, la mémoire. Moi, en tant qu'historien amateur, je suis un passeur d'histoire. Voilà. Je suis un relais. Je pense que les générations qui vont arriver derrière, les enfants et les petits-enfants futurs, sont également intéressés par l'histoire. Et voilà, c'est une histoire de respect pour le travail qui a été accompli par nos aînés, par nos aïeux, qu'il faut transmettre, hein, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Voilà, c'est une expérience commune.
Toute dernière question, c'est important de bien comprendre le passé pour piloter le présent et construire le futur.
Alors, savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va et pour mieux peut-être appréhender les choses et peut-être nous servir de ces expériences-là pour ne pas renouveler certaines fautes. Voilà, ça c'est peut-être un peu ce qu'on devrait faire avec l'histoire. Voilà, se servir de l'expérience des anciens pour essayer de ne pas renouveler des problèmes.
J'aime bien quand vous dites que vous êtes un historien amateur. Moi, je me régale. C'est vraiment merci à vous en tout cas.
Avec grand plaisir, oui, c'est vrai. Je suis un amateur. Un amateur éclairé peut-être.
Merci.